Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur la corruption à Malte. 6 mois après l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia, elle dénonçait l'argent sale dans cet archipel membre de l'Union européenne. Avec une vingtaine de médias internationaux, nous avons repris toute l'enquête. Qui était cette journaliste? Sur quel dossier sensible travaillait-elle? On va voir ça avec vous, Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Benoît.
Et puis nous recevrons Henriette Chardac, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur le lobby du light et sur l'aspartame, ce faux sucre qu'on retrouve dans 6000 produits alimentaires et qui pourrait devenir un scandale sanitaire.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
No change, no justice. No change, no justice. No change, no justice.
No change, no justice. Pas de justice sans changement. C'était le 30 octobre dernier à Malte. La colère du mouvement Occupy Justice qui s'est créée juste après l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Une journaliste tuée le 16 octobre 2017 par une bombe cachée sous sa voiture. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu cette semaine sur France Inter, la cellule investigation de Radio France s'est associée à un collectif de médias internationaux avec un objectif, poursuivre les enquêtes de cette journaliste. Et c'est vous, Sylvain Tronchet, qui, pour Secret d'Info, avez participé à ce travail.
Oui, un travail coordonné par Forbidden Stories, une organisation française qui s'est donnée pour but de protéger les journalistes menacés et de reprendre le travail de ceux qui sont emprisonnés ou assassinés. Forbidden Stories a rassemblé 45 journalistes de 18 médias internationaux dans ce qu'on a appelé le projet Daphné pour poursuivre les enquêtes de la journaliste.
Alors voilà donc pour la façon dont vous avez travaillé sur cette enquête très particulière, on l'a bien compris. Voyons à présent qui était vraiment cette journaliste maltaise, une sacrée personnalité.
Une très forte personnalité. Daphne Caruana Galizia était une figure centrale du journalisme à Malte depuis 30 ans. Cette mère de 3 enfants a d'abord travaillé pour des quotidiens de référence sur l'île et puis, en 2008, elle crée son blog pour avoir la liberté d'écrire ce qu'elle veut, comme elle le veut, quitte parfois à déplaire, comme l'explique la journaliste Caroline Muscat, qui l'a bien connue.
Daphne était critiquée parce qu'elle était insolente. Elle savait comment parler à la société maltaise. Les mots qu'elle utilisait touchaient les gens. Par exemple, lors des Panama Papers, c'était très dur d'expliquer ces montages complexes, qui en étaient les bénéficiaires. Elle écrivait « Ce ministre vous a baisé ». Ça se passait comme ça.
Ce ministre vous a baisé, on comprend qu'avec des formules pareilles, cette journaliste n'a pas dû se faire que des amis, Sylvain.
Oui, des ennemis, elle en avait beaucoup sur l'île, surtout du côté de l'actuel gouvernement maltais. Et elle agaçait tellement le pouvoir qu'un conseiller du Premier ministre a même créé une sorte de contre-blog, un site où elle était surnommée la sorcière, qui publiait des photos volées de Daphne Caruana Galizia dans des positions peu avantageuses. La journaliste a raconté l'enfer qu'elle vivait à une chercheuse 10 jours avant sa mort. Voilà ce qu'elle disait de ce blog piloté par un conseiller ministériel.
En un an, il a écrit 380 articles sur moi, plus d'un par jour. C'est du harcèlement. Du coup, je peux même plus aller à la plage. Ça fait 4 ans que je n'y suis plus allée. La dernière fois, il y avait un groupe d'hommes qui me suivaient. Ils prenaient des photos et les envoyaient sur Facebook.
Et la voix de Daphne Caruana Galizia. Donc ce qu'on comprend, c'est que le pouvoir maltais semble avoir une stratégie pour mettre la pression sur cette journaliste, pour la décrédibiliser en fait.
Oui, et décrédibiliser ses enquêtes. Parce que, comme le dit Caroline Muscat, qu'on a entendu, Daphne Caruana Galizia, c'était un Wikileaks à elle toute seule. Elle a sorti des dizaines d'affaires de corruption, de blanchiment, de trafic dans ce tout petit pays, 450 000 habitants. Et ça, aucun autre média ne le faisait, constate son fils Matthew.
Elle était la seule à enquêter sur les sujets sensibles à Malte. Les autres ne faisaient que reprendre ces informations. Et ça veut dire que si quelqu'un voulait ne plus entendre parler de ces sujets, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était l'éliminer, éliminer la source de tout cela.
c'était la seule qui enquêtait sur les sujets sensibles, dit le fils de Daphne Caruana Galizia. Mais pourquoi elle était si seule?
Eh bien, parce que si Malte est une démocratie, hein, ça c'est un fait, c'est aussi une micro-société où tout le monde se connaît et où prendre la parole, c'est souvent mettre en difficulté quelqu'un de sa famille. Et certains regrettent aujourd'hui de ne pas avoir plus soutenu Daphne Caruana Galizia, comme Ivan. C'est un lecteur assidu de son blog que j'ai croisé à la veillée organisée 5 mois après sa mort.
Daphne est une héroïne parce que la plupart d'entre nous avaient peur de parler. Nous l'avons laissée seule et rétrospectivement nous nous sentons coupables parce qu'elle était une voix dans le désert, toute seule. Nous aimions écouter ce qu'elle disait, installée confortablement chez nous, mais nous l'avons laissée affronter les risques. Nous ne réalisons pas combien ce qu'elle disait était vrai et combien le pays était à la dérive.
Nous l'avons laissé seul affronter les risques, nous avions peur de parler, dit ce manifestant. Ce sont des mots assez forts, mais comment expliquer un tel climat si pesant?
Eh bien, pour comprendre ça, il faut s'intéresser au contexte politique maltais. Depuis l'indépendance, il y a 50 ans, deux partis se partagent le pouvoir. Les travaillistes, un parti de centre-gauche, et les nationalistes de centre-droit. Et à Malte, on est forcément dans un camp ou dans l'autre. Et lorsqu'un camp prend le pouvoir, il met littéralement la main sur le pays. C'est ce que m'a raconté Arnold Cassola, le fondateur du Parti Vert Maltais.
Le Premier ministre a tous les pouvoirs, surtout à l'Université de Malte. Si on doit élire un recteur, s'il n'y a pas le visa du gouvernement, tu ne pourrais pas être élu. La Banque Valletta, le président, est nommé par le gouvernement. La Société de l'eau, la Société de l'électricité, le Comité national de sport, l'orchestre national. Et j'enlève le directeur, chef d'orchestre, et je mets mon chef d'orchestre du parti. Mais c'est la normalité, normalement.
Oui, donc l'eau, l'électricité, la banque, l'université, même le chef d'orchestre doit forcément être du côté du camp au pouvoir, explique cet ancien responsable politique. Et Daphne Caruana Galizia, alors, elle était dans un camp?
Elle était réputée proche des nationalistes, ce qui est vrai, mais ça ne l'avait pas empêché, par exemple, de sortir une histoire très embarrassante sur l'actuel chef du parti nationaliste, qui s'est retrouvé tout de même associé à des proxénètes londoniens.
Ouais, donc si je comprends bien, en fait, elle tapait sur tout le monde.
Oui, mais ceci dit, ces dernières années, l'essentiel des affaires qu'elle a sorties concernait l'actuel parti au pouvoir, le Parti travailliste. Elle a révélé notamment que deux membres du gouvernement étaient bénéficiaires de sociétés offshore qui avaient reçu des virements suspects. Et elle a même affirmé que la femme de Joseph Muscat, le Premier ministre, aurait touché 1 million d'euros en provenance d'Azerbaïdjan.
Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette révélation?
Eh bien, Joseph Muscat et ses ministres ont tous démenti, mais le scandale prend de l'ampleur. Et en juin 2017, le chef du Parti travailliste tente un coup de poker. Il convoque des élections anticipées, mais en fait, c'est pour mieux reprendre la main, analyse la journaliste Caroline Muscat.
Ce n'était pas une élection pour le pays, mais une élection pour que le gouvernement puisse contourner les processus démocratiques qui doivent exister face à ce genre de soupçons. Il a tout fait pour rester au pouvoir et il a gagné cette élection.
Oui, donc Joseph Muscat remporte son coup de poker, il gagne les élections, il est réélu Premier ministre, mais est-ce que malgré tout, il tient compte des accusations de Daphne Caruana Galizia sur ses ministres?
Eh bien, absolument pas, non. Il renomme son directeur de cabinet Keith Chambry et son ministre du tourisme Konrad Mizzi.
Bon, rien ne bouge donc vraiment au niveau politique, mais il n'y a pas d'enquête qui est déclenchée?
Et au début, non. Et c'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque, il y a sur le bureau du chef de la police un rapport de l'agence maltaise anti-blanchiment accablant pour les deux membres du gouvernement mis en cause. Il va falloir des mois avant que ce rapport atterrisse dans les mains du chef de l'opposition, Simon Busuttil, qui décide lui-même de l'apporter à un juge.
Ce rapport que j'ai dévoilé, j'ai décidé de le donner à un magistrat parce que j'étais exaspéré que rien ne se passe. Le chef de la police en avait connaissance et ne faisait rien. Ce qu'il contenait devait au minimum déclencher une enquête.
Mais tout ça paraît quand même assez incroyable. Si je résume, on a un rapport officiel avec de forts soupçons de corruption contre deux membres du gouvernement. Mais ce rapport ne déclenche dans un premier temps aucune poursuite et il finit ensuite par atterrir dans des conditions rocambolesques dans les mains d'un juge. Mais comment c'est possible ça, Sylvain ?
Il faut savoir qu'à Malte, le chef de la police est dans la main du gouvernement, en fait. On n'hésite pas à le révoquer. C'est vrai aussi pour le patron de l'agence anti-blanchiment qui a étrangement démissionné suite à cette affaire. Il y a en fait un véritable problème d'état de droit à Malte pour l'ancienne magistrate et députée européenne Eva Joly.
Il y a une proximité très grande entre le gouvernement et les enquêteurs qui fait que nous ne pouvons pas faire confiance dans l'indépendance des enquêteurs. Ils sont nommés directement par le Premier ministre lui-même. Il y a une certaine crainte, il y a une peur aussi à Malte d'affronter le pouvoir.
Une certaine crainte, une peur du pouvoir à Malte, dit Eva Joly, et ça on l'a déjà entendu tout à l'heure dans la voix d'un manifestant, mais la peur de quoi exactement ?
Bien, pour comprendre, je vais vous raconter une histoire, celle de Jonathan Ferris. C'est un ancien policier maltais, un enquêteur chevronné, rompu au gros dossier politico-financier. Il était ensuite directeur des enquêtes de la fameuse agence anti-blanchiment. Du jour au lendemain, il a été limogé au moment même où ses investigations se rapprochaient du pouvoir. Lui aussi, comme Daphne Caruana Galizia, est devenu une bête noire du gouvernement. Et le jour de l'assassinat de la journaliste, voilà comment il a réagi.
I was petrified, but then I started to get concerned even myself.
J'étais pétrifié. Et ensuite, j'ai commencé à me sentir concerné. Je regardais sous ma voiture. Et puis le 13 novembre, je promenais mon chien à 6 heures du matin et j'ai vu qu'une voiture me suivait, les phares éteints. Je suis rentré et j'ai sorti un revolver de mon coffre-fort. Et je dois me défendre et je défendrai ma famille.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Alors on a vu comment, avec ces révélations, la journaliste Daphne Caruana Galizia s'est mise à dos le gouvernement maltais, à commencer par son premier ministre. On a vu comment une bonne partie des institutions étaient verrouillées par le pouvoir en place. Voyons maintenant sur quel dossier précis travaillait cette journaliste. Sylvain Tronchet, vous avez suivi la trace de ces enquêtes. Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Eh bien, quasiment toutes ces enquêtes récentes menaient vers une banque maltaise, la Pilatus Bank. Elle a été créée par le fils d'un milliardaire iranien, un homme proche du premier ministre maltais. Joseph Muscat était à son mariage à Venise.
Bon, d'accord, mais cette banque, qu'est-ce qu'elle a de spécial ?
Eh bien, ça n'est vraiment pas une banque comme les autres. Elle ne fonctionnait que pour une poignée de clients. Et l'argent qui entrait dedans empruntait souvent des circuits obscurs. C'est ce que nous a confié Maria Efimova. C'est une ancienne employée de la Pilatus, qui était aussi une informatrice de Daphne Caruana Galizia.
Le business model de cette banque et les opérations qu'elle effectuait n'étaient pas habituelles. J'ai de bonnes raisons de penser que cette banque a été créée pour faciliter des opérations de blanchiment d'argent. Un jour, j'ai pu voir le total du bilan. C'était 200 millions. Et je me souviens que M. Sader a dit que 80% des actifs venaient de deux ou trois clients.
Une banque créée pour faciliter le blanchiment, c'est ce que dit cette ancienne employée de banque. Ce sont des accusations graves, mais elle a qui comme client cette banque ?
Eh bien, notamment le directeur de cabinet du Premier ministre, des hommes d'affaires proches du gouvernement maltais. Et puis nous avons découvert qu'il y avait aussi une vingtaine de comptes appartenant aux familles Aliyev et Heydarov.
C'est-à-dire ?
Eh bien, ce sont les deux familles les plus puissantes d'Azerbaïdjan. La famille Aliyev, c'est celle du président dictateur Ilham Aliyev. La famille Heydarov, c'est celle de son ministre des situations d'urgence, Kamaladin Heydarov, qui est aussi un milliardaire oligarque à la tête d'un empire industriel. Bref, des politiques, leurs proches, des dirigeants d'Azerbaïdjan. De quoi éveiller les soupçons de l'ancienne magistrate Eva Joly.
Nous savons que les Azerbaïdjanais cherchent à blanchir des fonds et à pénétrer la zone européenne. Nous savons que l'Azerbaïdjan à payer des élus pour soutenir leur image lorsque les documents indiquent que ce n'est pas un État démocratique, c'est une dictature. Et donc, c'est en soi très suspect, évidemment.
Et ce qui renforce ces soupçons, hein, ce sont les liens qui existent entre Malte et l'Azerbaïdjan. Plusieurs contrats ont été signés dans le domaine de l'énergie et le Premier ministre s'est même rendu à Bakou.
Bon, mais ces dirigeants azerbaïdjanais, pourquoi ils utilisent cette fameuse banque ?
Eh bien, probablement parce que les capitaux venant d'Azerbaïdjan, c'est quand même de l'argent très surveillé, hein, et disons que la Pilatus n'était pas trop regardante et ça a permis aux oligarques de mettre un pied en Europe et d'investir jusqu'en France.
Ah bon, mais comment ça ?
Eh bien, la coopération internationale de journalistes a permis de remonter le fil de tout un tas de sociétés écrans et d'arriver jusqu'à 3 entreprises françaises qui font quasiment partie de notre patrimoine national. La maison Porto, fabricant de linge de maison haut de gamme de Cambrai qui fournit l'Elysée, un fabricant de figurines en Seine-Maritime et une institution de la porcelaine de Limoges, la maison Coquet. Elle avait été rachetée il y a 4 ans par une société en apparence bien française avec un dirigeant français. Mais le PDG de la fabrique de porcelaine, Christian Lepage, se posait quand même des questions et maintenant, il est vraiment inquiet au micro de François Spin de France Bleu Limousin.
Nous savions que ce n'était pas forcément de l'argent français. On se posait beaucoup de questions. Et après, toutes les supputations sont possibles. Alors, que ce soit de l'argent azéri ou moyen-oriental ou américain ou scandinave, ça ne nous pose pas de problème. Quand on commence à nous parler d'argent sale, on est beaucoup plus inquiet sur l'avenir et puis sur cette incapacité à maîtriser la provenance des fonds qui étaient censés nous aider. Et s'il y a de l'argent douteux et qu'il s'avère que cet argent douteux devient plus que douteux, il va y avoir des inquiétudes dans l'entreprise.
Le spectre de l'argent douteux dans la porcelaine de Limoges, et on comprend mieux avec cette histoire en quoi cette affaire maltaise est en réalité une affaire européenne. Et justement, Sylvain, il y a un autre dossier très sensible et très européen sur lequel travaillait également Daphne Caruana Galizia avant son assassinat.
Oui, ce dossier, il concerne la vente de passeports par l'État maltais qui, je vous le rappelle, est membre de l'Union européenne depuis 2004.
Alors expliquez-nous, Malte vend ses passeports ?
Oui, mais alors attendez, c'est parfaitement légal en fait. Hein. Malgré tout, c'est quand même réservé à une catégorie de personnes bien précises, comme l'explique Jonathan Cardona, le responsable de ce dispositif gouvernemental.
Nous avons des PDG de banques ou de grands groupes. C'est vraiment le type de personnes que nous souhaitons attirer. Il faut qu'ils aient les moyens financiers pour postuler parce que c'est une façon de filtrer. Nous ne cherchons que des gens très, très fortunés.
Et pour obtenir un passeport, il faut débourser environ 1 200 000 euros. 3 000 personnes, tout de même, sont devenues citoyens maltais, comme ça, depuis 4 ans.
Donc des gens très fortunés qui achètent des passeports maltais, qui par exemple ?
Une très grande majorité de Russes, comme le milliardaire Arkady Voloz, c'est le fondateur de Yandex, c'est le Google russe. Et puis nous sommes aussi tombés sur quelqu'un qu'on connaît bien dans le football français, c'est Vadim Vassiliev, le vice-président de l'AS Monaco, lui et sa femme sont devenus maltais l'an dernier.
Bon, mais quel intérêt de payer si cher un passeport maltais ?
Alors, le premier intérêt, quand on est russe ou chinois aussi, par exemple, il y en a, c'est qu'avec un passeport européen, on peut voyager dans 160 pays sans visa. Et ça permet aussi d'échapper aux sanctions internationales quand on vient d'une nation un peu sulfureuse. Et puis, ça peut même être intéressant pour les Européens, parce que ça peut permettre d'échapper au fisc. Si vous êtes français aujourd'hui et que vous ouvrez un compte en Suisse, la Suisse va le dire à la France. Mais si vous montrez votre passeport maltais au banquier, et comme Malte ne taxe pas les avoirs à l'étranger, eh bien, vous échappez au radar. C'est ce que déplore le monsieur fraude fiscale de l'OCDE, Pascal Saint-Amand.
Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que ceux qui achètent la citoyenneté l'achètent pour contourner les nouvelles règles fiscales. Alors, ils l'achetaient peut-être précédemment pour contourner d'autres règles, des règles d'embargo ou pour pouvoir voyager plus librement, ce qui est un peu moins illégitime. Aujourd'hui, le vrai souci, c'est que la vente de passeports, la vente de résidences fiscales sont destinées à contourner les règles internationales qui visaient à mettre fin au secret bancaire. Donc, tous les efforts de la communauté internationale se retrouvent un peu en risque d'être mise en échec par ce type de pratique.
Et donc on a bien compris qu'un passeport de l'Union européenne comme celui de Malte, il permet de faire pas mal de choses et notamment de contourner les règles fiscales. Mais est-ce qu'il suffit de payer pour avoir un passeport ?
Alors, en théorie, non. Il faut aussi ne pas avoir d'antécédents criminels. Ça, c'est pas trop mal contrôlé par l'État maltais. Mais il y a une autre condition qui a été imposée par la Commission européenne, c'est que pour obtenir un passeport maltais, il faut une preuve de résidence d'au moins 12 mois sur l'île.
Une preuve de résidence dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien ça veut dire qu'il faut un logement et qu'il faut y avoir habité. Sauf qu'en fait, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a plein de logements bidons. Par exemple, je suis allé à l'adresse qu'a déclaré un certain Dimitri Doiken. C'est un multimillionnaire, c'est le fondateur du Décathlon russe. J'ai montré une photo de lui à son voisin d'en face et écoutez la réaction.
Have you ever seen that guy?
Vous connaissez cet homme?
Non.
Il s'appelle Dimitri Doiken. Regardez, son nom est sur la boîte aux lettres, là.
A millionaire come here.
Un millionnaire qui vivrait ici? Et il vivrait dans le sous-sol?
There even not any furniture in there.
Il n'y a pas de meubles à l'intérieur. C'est une vieille maison qu'ils ont divisée en appartements il y a 2 ans. Le sous-sol est un appartement. Avant, c'était le garage. Je l'ai vu, c'est tout petit.
Small room.
Pas l'ombre d'un russe, visiblement, autour de cet appartement dans un sous-sol. Bon, mais du coup, ça veut dire que cette règle des 12 mois de résidence pour acheter un passeport imposée par la Commission européenne, cette règle, elle n'est pas du tout respectée.
Non, il faut être clair, hein, personne à Malte ne la respecte. C'est ce que nous ont dit d'ailleurs hein, tous les agents que nous avons rencontrés, les agents en fait hein, qui ont la licence pour vendre des passeports. C'est pour cela que Daphné Caruana Galizia enquêtait sur ce dossier. Et puis, il y a aussi de forts soupçons de corruption qui pèsent sur 2 membres du gouvernement maltais. Ils ont reçu de l'argent de Russes qui venaient d'acheter un passeport sur des comptes offshore.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu que Daphné Caruana Galizia enquêtait notamment sur 2 dossiers très sensibles, une banque où transitait de l'argent douteux et un programme de vente de passeports qui sent le soufre. Voyons maintenant, Sylvain Tronchet, comment réagit à tout ça l'Union européenne ?
Alors, avec le collectif international de journalistes, nous sommes rapprochés de la Commission européenne. Nous avons envoyé une demande d'interview à Frans Timmermans, c'est le commissaire européen chargé de l'état de droit. Il a refusé de nous répondre. Du coup, Jules Giraudat de France 2 s'est glissé dans une conférence de presse pour lui demander si la Commission comptait prendre des sanctions contre Malte. Écoutez sa réponse un peu embarrassée.
La Commission suit de près la situation à Malte. Ça n'est certainement pas quelque chose que nous ignorons. Vous me demandez s'il va y avoir des sanctions, mais à ce stade, il n'y a pas d'éléments pour justifier des sanctions. Mais nous surveillons ce dossier et si nous considérons qu'il y a des éléments, alors nous n'hésiterons pas à proposer des sanctions.
Oui, donc ce qu'on entend, c'est que le commissaire européen chargé de l'état de droit botte en touche sur cette question. Mais est-ce que ça veut dire que le Premier ministre maltais, finalement, n'a pas vraiment de pression politique au sein de l'Union européenne ?
Bien, en tout cas, que jusque-là, il s'en est affranchi assez facilement. Par exemple, lorsque la commission d'enquête européenne sur les Panama Papers a voulu l'entendre, il n'est pas venu. Et puis, lorsque le Parlement européen a organisé un débat sur l'état de droit à Malte, 11 jours seulement après la mort de Daphné Caruana Galizia, vous savez où était Joseph Muscat ?
Ben non.
Eh bien, il était à Dubaï en train de faire la promotion du programme de vente de passeports maltais.
Oui, je vois. Bon, mais est-ce que le Premier ministre maltais a toujours réussi à esquiver la moindre interpellation politique ?
Eh bien, il y a un jour où il a bien été obligé de venir devant le Parlement européen, parce que Malte présidait l'Union à ce moment-là. C'était le 14 juin 2017, et là, Werner Langen, le président allemand de la commission d'enquête sur les Panama Papers, a eu l'occasion de lui dire ce qu'il pensait de son attitude. Attention, grosse colère.
Ce n'est pas digne d'un ancien eurodéputé comme vous. Et en plus, vous présidez l'Union européenne cette année. Un tel mépris du Parlement européen, j'ai jamais vu ça. Vous devez faire le ménage dans votre propre pays. On ne va pas vous lâcher. Nous allons nous pencher sur votre propre cas et vous pouvez rire. On ne vous laissera pas vous en tirer comme ça.
Voilà, c'est une scène quand même assez incroyable qui s'est déroulée devant le Parlement européen. Et pendant tout ce temps-là, le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, ricanait sur son siège.
Mais comment il faut interpréter tout ça? Le Premier ministre maltais se sent-il soutenu politiquement au sein de l'Union européenne?
Oui, en tout cas, c'est l'analyse de l'eurodéputé allemand Sven Giegold qui a participé à la commission d'enquête sur Malte.
Au Parlement, la majorité des social-démocrates et socialistes ont défendu le gouvernement maltais qui font encore partie de leur groupe politique. Mais il y a eu toujours une majorité de lutter pour plus de démocratie et l'état de droit à Malte. En même temps, la Commission européenne, malheureusement, a défendu le gouvernement de Muscat et ils ont déclaré qu'il n'y a pas vraiment de problème d'état de droit à Malte. Monsieur Juncker et aussi Timmermans sont des amis de Monsieur Muscat. Monsieur Muscat a aidé régulièrement la Commission européenne de trouver des majorités au Conseil. C'est utile d'avoir Monsieur Muscat au sein des socialistes.
Mais la Commission européenne défend le Premier ministre Muscat, dit en substance cet eurodéputé allemand. Bon, mais Sylvain, on a vu que les enquêtes n'avançaient pas à Malte, qu'au niveau européen, Malte conserve de nombreux soutiens. Mais tous ces dossiers de corruption, de blanchiment sur lesquels travaillait Daphne Caruana Galizia, ils vont être enterrés ?
C'est difficile à dire, mais d'abord, il faut quand même se dire qu'il y a des magistrats qui travaillent à Malte, même si on l'a vu, c'est très très compliqué. Et puis, il y a aussi la pression internationale. Le directeur de la banque Pilatus, cette fameuse banque sur laquelle travaillait la journaliste, l'Iranien Ali Sadr, a été arrêté il y a un mois aux États-Unis. Il est incarcéré. Il est soupçonné d'avoir tenté de contourner l'embargo sur l'Iran. Il risque 125 ans de prison.
Et le projet Daphné a pu montrer aussi qu'un ministre de Joseph Muscat avait menti devant une commission du Parlement européen.
Oui, elle va peut-être lui demander des comptes. C'est ce que réclament certains eurodéputés. De son côté, Jonathan Ferris, vous vous souvenez, l'ancien policier limogé de l'agence anti-blanchiment au moment où il enquêtait sur le gouvernement, lui pense que cette histoire est loin d'être finie.
À Malte, il y a un proverbe qui dit que l'huile finit toujours par remonter à la surface de l'eau. C'est ce qui finira par leur arriver à tous. Ils peuvent garder le secret pendant des années, mais tout ça sortira, forcément. Ça prendra peut-être du temps, mais ça sortira. Et là, ils tomberont comme des dominos.
Ils finiront par tomber comme des dominos. Nous verrons bien. Merci Sylvain Tronchet pour cette enquête passionnante que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi la commenter sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter Investigation RF. Et je rappelle que le projet Daphné n'est pas terminé. Il y aura de nouvelles révélations dès la semaine prochaine. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous allons explorer les coulisses du faux sucre et de la chimie mondiale. We'll be right back. Monsieur Président, le blues créole très rock de Pascal Danaé et de son trio baptisé Delgrès, le nom du héros de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Alors nous recevons à présent Henriette Chardac. Vous publiez une enquête intitulée « Le light, c'est du lourd », le scandale de l'aspartame et des édulcorants aux éditions Max Milo, une plongée dans les coulisses de la chimie mondiale. Alors l'aspartame, c'est un édulcorant artificiel qui remplace le sucre dans 6000 produits alimentaires, un faux sucre donc qui est censé notamment lutter contre l'obésité, sauf que ce que vous dites dans votre livre, c'est que non seulement ce faux sucre ne ferait pas maigrir, mais en plus, eh bien, il pourrait avoir un effet sur la santé.
Alors non seulement sur la santé, mais pour dire les choses très simplement, le light, ça fait grossir. L'aspartame est considéré par certains comme une drogue addictive.
Alors ce qui est assez passionnant dans votre livre, c'est que vous fouillez les archives et vous remontez aux origines de la mise sur le marché de l'aspartame. Et tout commence en fait dans les années 60 aux États-Unis. C'est là que tout démarre. Hein.
Tout se passe dans la ville de Chicago. Le laboratoire Searle...
C'est le laboratoire qui met le premier sur le marché l'aspartame.
Voilà. Il recherche, si vous voulez, quelque chose de différent pour sucrer. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher et que pour tous les fabricants, un faux sucre qui serait 200 fois plus sucrant et 300 fois moins cher, ce serait rentable.
C'est la martingale.
Voilà. Mais les premiers tests montrent qu'il va y avoir des tumeurs, qu'il va y avoir des problèmes.
C'est ça, parce que ce qui paraît fou, ce que vous expliquez, c'est que dès le début, des scientifiques alertent sur les effets de l'aspartame. Ils font des expériences sur des animaux.
Sur des singes macaques, par exemple. Quand les trois quarts des singes meurent très vite, ou que les examens sont traficotés, parce qu'il faut que la FDA...
La Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'administration américaine qui est chargée de contrôler les aliments et les médicaments.
Oui, et de donner un feu vert. Eh bien, même à l'intérieur de la FDA... Il y a des scientifiques qui vont dire « on ne sait pas, on ne peut pas le mettre sur le marché ».
Et pourtant, l'aspartame va être mis sur le marché.
Voilà. On passe par-dessus les craintes et on va passer après à l'époque liquide, c'est-à-dire les boissons light. Et tout simplement parce qu'il y a un lien entre le politique et la santé.
Et vous le montrez aux États-Unis, c'est-à-dire qu'au moment où il y a le véritable feu vert qui est donné par l'administration américaine, donc on est au début des années 80, Ronald Reagan vient d'être élu président des États-Unis et l'industrie du light peut compter sur vraiment des hommes sûrs à des postes clés. Hein.
Tout à fait, comme Donald Rumsfeld. Mais d'où vient-il ? Eh bien de ce même laboratoire Searle.
C'est-à-dire que Donald Rumsfeld a été chef de cabinet à la Maison Blanche, secrétaire à la Défense dans les années 70, et puis il devient patron du laboratoire Searle.
Oui, et ensuite, quand il est auprès d'un président américain qui lui demande son avis, il le donne, et l'aspartame va être accepté. C'est vraiment très trouble et troublant. Et l'EFSA, c'est-à-dire l'organisation européenne, se base sur ces vieilles enquêtes trafiquées. Et je pense que ça arrange bien les fabricants d'édulcorants, parce que tant qu'il y a controverse, on peut vendre à la terre entière, c'est-à-dire 1 milliard de consommateurs, en gros, qui vont tomber malades sans savoir. C'est ça qui est triste.
Parce on entretient ce doute.
Voilà, on entretient le doute et ce sont ces mêmes forces de fabrication qui ont des satellites médicaux qui vont vendre, qui font de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors, l'aspartame ne fabrique pas Alzheimer, mais c'est un promoteur de maladie. Alors qu'il existe un édulcorant naturel, le tagatose, qui est issu du lait.
C'est ça, parce que ça, on l'apprend dans votre livre, c'est qu'en réalité, il y a une alternative naturelle, donc le tagatose, et qui est un produit naturel qui, a priori, est sans risque, sauf que ce produit n'appartient à aucun trust. Hein.
Il est fabriqué en Belgique et il faut le commander. Parce que comme ce n'est pas un médicament, on ne le trouve pas en pharmacie. Et moi, je dis que l'industrie laitière, elle a devant elle un boulevard si elle veut fabriquer un édulcorant qu'on peut cuire. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai rencontré des femmes diabétiques qui avait des problèmes d'élocution et d'autres problèmes, à qui le diabétologue donnait la possibilité de faire des gâteaux à l'aspartame. Donc, on laisse aller et le temps s'écoule. Et vous pouvez remarquer que dans le monde entier, le nombre d'obèses augmente. C'est affolant.
Selon vous, il faudrait une autorité indépendante pour faire la lumière sur l'industrie du faux sucre.
Exactement. Et sur d'autres choses, sur la chimie de l'alimentation. Mais cette organisation n'existe pas.
Merci Henriette Chardac. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le light, c'est du lourd, le scandale de l'aspartame et des édulcorants aux éditions Max Milo. Et je précise que vous pouvez retrouver une version longue de cette interview et une vidéo sur franceinter.fr. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Stéphane Boja, à Nicolas Cazot et à Kevin Pelot à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessoux, CO2 Mon Amour, où il sera notamment question des grands projets inutiles. Et oui, la cellule investigation de Radio France revient samedi prochain. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.